Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Que des sujets forts et des enjeux de société de notre émission d'aujourd'hui. On parlera du suicide, surtout du côté de celles et ceux qui restent. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis, des recommandations musicales. Et on accueille tout de suite nos premières invitées du jour pour une initiative qui prend place à l'Université de Poitiers. Anne Dessau, qui est directrice du CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Bonjour.
Bonjour.
Et Catherine Hanou, qui est chargée de mission égalité-diversité à l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une initiative, je le disais, qui prend place à l'université à partir de ce mois de novembre. Le CIDFF 86 va assurer des permanences juridiques à l'université pour des étudiantes et des étudiants victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors je vais me tourner vers toutes les deux, peut-être vous d'abord, Catherine Hanou. Comment est né ce projet de permanence juridique à l'université ?
Alors en fait... L'initiative, on revient au CIDFF 86 qui a fait la proposition à laquelle on a répondu avec enthousiasme, même s'il a fallu un peu de temps pour que tous les calendriers coïncident. Mais enfin, on va pouvoir commencer là au 14 novembre. Et ça vient parfaitement en fait renforcer le dispositif de l'université, le compléter par le versant juridique du côté de ce qui sera éventuellement du pénal, ce qui n'est pas du ressort de l'université.
Alors racontez-nous, Anne Dessau, comment vous est venue l'idée de vous adresser directement à l'université pour ces permanences ?
Alors, dans le cadre, depuis 2023, on cherche à faire une politique d'aller vers et à aller développer des permanences juridiques sur l'ensemble du territoire du département. Pourquoi l'université ? Parce que si on regarde, nous, nos statistiques, on accueille sur Poitiers, sur Châtellerault, sur l'ensemble du département, et on accueille très peu de jeunes de moins de 25 ans, alors que l'on sait que les violences sexistes et sexuelles touchent toutes les catégories sociales et toutes les tranches d'âge. On se dit qu'il manque, qu'on n'est pas visible en fait pour les étudiantes et par les étudiantes et par les étudiantes ou par les plus jeunes, par le public plus jeune, alors que c'est aussi un public qui est touché par les violences sexistes et sexuelles. D'où cette proposition en fait d'intervenir directement en proximité, d'intervenir sur le campus.
Alors Catherine Hanou, vous le disiez, ça s'inscrit dans une démarche plus large au niveau de l'université, de prise en compte de ces VSS. Quelles sont les violences sexistes et sexuelles qui sont peut-être les plus rapportées par les étudiantes et les étudiants à l'université ? Est-ce que vous avez un petit peu des éléments ?
Oui, malheureusement, on a en fait tout le panorama de ce qui entre dans les classifications, les typologies habituelles. Ça va l'insulte, enfin des propos sexistes, jusqu'au viol, malheureusement. Donc les traitements qui sont apportés à ces signalements sont évidemment très différents, puisque on peut très bien gérer les choses du point de vue universitaire avec le disciplinaire, mais lorsqu'il est question de viol, là il est évident qu'il peut y avoir il doit y avoir même la saisine du procureur, le fameux article 40 du code pénal, et l'orientation des personnes qui font ce signalement vers le dépôt de plainte qu'on peut accompagner.
Et alors comment ces permanences juridiques s'articulent avec les autres services d'aide aux étudiantes et aux étudiants que propose l'université ?
Vous voulez dire
comment ça s'intègre aux autres ?
Alors ça sera vraiment un complément intéressant parce que finalement les étudiants et étudiantes pourront venir sans avoir besoin de faire un signalement. On sait que l'approche peut être du type « je connais quelqu'un qui a besoin d'eux », ce qui est une façon comme une autre, finalement, de se renseigner, de voir ce qui est possible. Donc, tandis que lorsque l'on saisit la plateforme pour faire un signalement, là, c'est clair qu'il faut raconter ce qui est arrivé, alors soit à soi directement, ce qui est le cas le plus fréquent, soit à des personnes que l'on connaît. Donc le CIDFF va permettre, ces permanences-là vont permettre de toucher des étudiants et étudiantes qui n'oseraient sans doute pas faire un signalement, pour qui ça sera une démarche supplémentaire, complémentaire. Donc c'est très précieux.
Et justement, Anne Dessau, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les étudiantes ou les étudiants qui seraient victimes pour signaler ces violences ? Quels sont les freins ?
Je dirais un peu comme toutes les victimes, en fait, c'est la difficulté de connaître bien ses droits, de savoir ce que je peux faire, de qualifier réellement si c'est une violence sexiste et sexuelle. Et puis oui, de connaître ses droits et de pouvoir faire les démarches possibles. Je dirais que du coup, ça vient effectivement, ça va permettre aussi de toucher aussi. On a un autre volet, c'est peut-être aussi des étudiantes et étudiantes victimes de prostitution, qui pourraient aussi être amenées à venir consulter le CIDFF pour avoir de l'information juridique sur et puis bien connaître leurs droits. Notre objectif au CIDFF, c'est bien que les personnes aient une information complète sur ce qu'elles peuvent faire et après elles se saisissent ou pas. On sait que chaque victime a une temporalité différente et c'est pas parce que il y a eu un fait signalé où l'étudiant ou l'étudiante va se saisir de la permanence juridique. C'est pas pour ça qu'après il va y avoir tout de suite un dépôt de plainte et une judiciarisation de l'affaire. C'est aussi du coup que les personnes puissent connaître leurs droits et ensuite après elles puissent faire les démarches qu'elles souhaitent en temps et en heure,
Et qui va les accueillir dans ces permanences?
Alors non, c'est une professionnelle, donc une juriste professionnelle, diplômée d'un Master 2. C'est une juriste qui intervient dans d'autres permanences, qui intervient sur notre siège à Poitiers aux Trois Cités. Et donc, elle va les accueillir sur rendez-vous sur deux matinées par mois.
J'imagine qu'il y a une certaine confidentialité qui va être conservée.
Tout à fait. Ce sont des entretiens confidentiels, c'est-à-dire qu'aucune donnée ne sort du CIDFF et puis ce sont des entretiens gratuits.
Alors, Catherine Ranou, vous avez un petit peu des chiffres, des personnes qui ont signalé des faits à l'Université de Poitiers. Je sais que vous nous les avez ramenés.
Oui, effectivement. On a été amené à faire le bilan du fonctionnement de la plateforme de signalement sur l'année universitaire 2023-2024. Alors, je vais parler en termes de situation, sachant qu'une situation peut recueillir 5, 10 signalements, 10 saisines de la plateforme, mais on considérera qu'il y a une situation. Donc, en fait, pour 2023-2024, il y a eu 38 situations. Concernant toute la communauté universitaire. Là, je parle aussi bien du personnel que des étudiants, étudiantes. Évidemment, le nombre de situations concernant la population étudiante est largement supérieur. Il y a 26 situations étudiantes qui mettent... Alors, c'est une personne étudiante qui est mise en cause par une personne présumée victime. Donc, ce sont des situations qui supposent une confrontation entre étudiants et étudiantes. Donc, 26 sur une année universitaire, sachant que c'est la partie émergée de l'iceberg, que beaucoup de choses ne remontent pas. Et sur ces 26, on constate qu'il y a 11 situations qui sont liées aux violences sexistes et sexuelles, et 13 qui sont liées à du harcèlement moral, puisque le harcèlement moral prend place, vraiment. Il s'installe, on le voit, dans les relations entre les jeunes, entre étudiants et étudiantes, ce qui n'est pas vraiment une surprise, puisque ça se passe en amont, et on sait que ça continue aussi. Donc, il n'y a pas de raison que l'université ne soit pas aussi un lieu où se produit cela. Donc, on essaye d'y apporter des réponses, mais voilà, ça vous donne un petit éclairage.
Sachant que ces chiffres risquent d'augmenter puisque les dispositifs sont récents et qu'il faut d'abord qu'ils soient connus. D'ailleurs, pour ces permanences, vous avez prévu peut-être une communication particulière pour prévenir les étudiantes et étudiants?
Alors, il y a les réseaux sociaux. C'est notre grande croix à porter la communication parce qu'on ne sait plus trop comment faire pour que ça soit vraiment perçu par celles et ceux qui seront les premiers intéressés. Donc, on essaye les réseaux, les mails, on se doute que ça n'aura que peu d'effet. On va passer aussi par le relais des associations étudiantes. Voilà. Et puis, je pense qu'il faudra faire des piqûres de rappel régulièrement. Et puis, vous êtes là aussi pour...
On y participe.
Non, exactement.
Et Anne Dessou, est-ce que vous avez un petit peu évalué combien de personnes pourraient s'adresser à vous? On voit 38 situations. Ça, ce sont que des personnes qui sont allées jusqu'au signalement. Vous, ça peut être beaucoup plus large, en fait.
Oui, ça, effectivement, ça peut être plus large. Je pense qu'effectivement, comme disait Catherine Ranoux, on va avoir un peu... C'est un dispositif qui va sûrement mettre un peu de temps à se mettre en place. Il va falloir communiquer. On a déjà commencé le premier créneau en fait de rendez-vous. Les premiers créneaux sont jeudi matin. Pour l'instant, aucun n'est réservé. Donc, c'est vrai que j'ai pas de visibilité en fait sur comment il va être saisi. Mais on peut imaginer que effectivement, en venant deux fois par mois, on peut toucher plus de personnes, d'autant plus que parfois il y aura pas forcément besoin d'un accompagnement et donc que l'étudiant ou l'étudiante soit revu plusieurs fois par la juriste. Voilà. Mais c'est vrai qu'à ce jour, on a peu de visibilité sur comment ce dispositif va pouvoir être saisi.
Alors, on va parler, pour terminer, juste des infos pratiques. Donc, c'est deux fois par mois, les jeudis, c'est ça ?
Les mardis.
Les mardis,
pardon. Les jeudis et mardis, oui.
Mardi et jeudi, d'accord. Et comment on prend rendez-vous concrètement ?
Donc, au numéro du CIDFF, au 05 49 88 04 41.
Et donc, les permanences se font sur le campus.
Au bâtiment B18, le temps des travaux de la maison des étudiants. Et quand la maison des étudiants sera à nouveau accessible à tout le monde, les permanences pourront se faire dans la maison des étudiants.
Merci beaucoup à toutes les deux. Anne Dessau, donc, directrice du CIDFF, merci d'être intervenue même à distance. Et Catherine Ranoux, donc, chargée de mission égalité et diversité à l'Université de Poitiers, donc, pour ces permanences qui commencent, permanences juridiques pour les étudiantes et étudiants victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ça commence dès ce jeudi à l'université.
On peut peut-être donner les deux autres dates déjà fixées, le 26 novembre et le 12 décembre.
C'est noté. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous propose maintenant d'écouter le premier album de Tashino intitulé Dance Music in a Different Style. C'est sorti sous le label Union World Music. Cet opus nous propose un voyage musical mélangeant l'électro-dance avec des influences afro-caribéennes. Tashino nous invite à découvrir son afro-dub électronique. Son album regroupe une palette d'artistes internationaux et justement, nous vous proposons l'un des morceaux phares de cet album, Enter the Dancehall, une collaboration avec Brother Culture.
95.9.
Tâche une belle introduction à votre soirée Culture Dub à 21h sur nos ondes. Et tout de suite, on accueille le docteur Jean-Jacques Chavagna, qui est psychiatre et pédopsychiatre. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes avec nous pour nous parler de la Journée mondiale des endeuillés par suicide qui aura lieu ce samedi 16 novembre. Et vous avez décidé pour la première fois au centre hospitalier Laborie de participer. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intégrer à cette Journée mondiale à Poitiers ?
Eh bien, plusieurs éléments. Tout d'abord, étant responsable d'une consultation de deuil complexe, donc essentiellement constitué de personnes qui ont subi, je dirais, un deuil après suicide, mais pas que. Également coordinateur d'un groupe de personnes endeuillées par suicide qui se fait tous les mois, pendant 10 mois. Je me suis dit, mais il faut peut-être aussi ouvrir davantage à des personnes de la société civile, à leur demande éventuellement de venir si ça les intéresse sur ces sujets-là, même s'ils ne sont pas endeuillés, mais ça peut aussi éventuellement leur amener à réfléchir et peut-être aider des proches. Et donc voilà, c'est la première fois que nous faisons ça, on sera peut-être pas très nombreux, mais je pense que c'est lancé et ça nous permettra de à la fois de regarder un film de Katia Chapoutier, qui est une réalisatrice de cinéma dont la sœur s'est suicidée, et puis l'après-midi, plus en direct avec des personnes qui ont écrit des livres après ce deuil après suicide, et donc 3 personnes, une de La Réunion, vous voyez, on fait large, et puis 2 autres qui sont dans la région Poitou-Charentes, qui viendront témoigner en s'appuyant un peu sur leur ouvrage. Certains sont encore suivis, d'autres pas, et puis des gens qui sont intéressés par ces sujets, qui sont avec nous, et quelques soignants probablement.
Alors, en tant que membre de l'Observatoire national du suicide, quelles sont un petit peu les tendances actuelles en France en matière de suicide ? Est-ce qu'il y a un peu des chiffres là aussi ?
Oui, alors il y a des choses nouvelles et qui peuvent intéresser également la personne qui a parlé avant moi, hein, donc voilà, et puisque ça va toucher plutôt les jeunes, hein, et donc je pense que Madame Ranou connaît peut-être déjà aussi ces chiffres. Après cette infection par Covid, hein, qui a duré un an et demi, voilà, et qui a quand même modifié beaucoup nos vies, en tout cas pour certains, d'autres un peu moins, il est vrai qu'on s'aperçoit maintenant qu'il y a eu un nombre de suicides tentés plus important chez les plus jeunes, et notamment les jeunes femmes. 15 à 20% en plus, hein, ce qui est quand même relativement conséquent. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement s'il y a eu plus de suicides, c'est-à-dire de gens morts, mais bon, on est en train de regarder les chiffres, parce que vous savez, il y a un certain temps avant d'avoir les chiffres sûrs et validés par les autorités sanitaires. En tout cas, pour ce qui concerne les suicides tentés, ça c'est clair, moins chez les garçons, hein, c'est moins vrai. Donc on peut penser que, en effet, toute situation qui a modifié les liens sociaux, hein, et ça c'est pas nouveau, hein, puisque déjà Durkheim, en son temps, au début du XXe siècle, avait déjà bien noté, entre autres, hein, les problèmes d'anomie et les difficultés de lien. Mais maintenant, c'est vraiment le focus le plus important pour nous dans toutes nos actions. Hein, c'est comment faire pour faire davantage de liens. Alors, une expérience est faite par le CIDFF en est une, et il y en a d'autres. Hein. Nous, on a le 3114, par exemple, hein, qui est un numéro de téléphone ouvert à tous, en raison d'une souffrance psychique, de 9 ans à 99 ans. Hein, voilà, plutôt, c'est plus rare. Après, c'est plus rare. Et où, en effet, il y a un groupe de psychologues et d'infirmiers en psychiatrie qui se trouvent au niveau du SAMU et qui peuvent répondre, pour nous, Poitou-Charentes, Limousin, de 9h à 21h. Et ensuite, s'ils appellent dans la nuit, ce sont des collègues de Brest qui répondent. Et il y a toujours un médecin de garde, hein, pour toute la France. Donc, ça, c'est intéressant, puisque ça permet d'avoir, quand on n'est pas très bien, la possibilité d'échanger avec des professionnels qui ont l'habitude. Hein, voilà. On est en train d'essayer de travailler pour la mise en place d'un chat, mais c'est pas encore mis complètement en place. Hein, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver hein, au niveau national, puisque c'est une initiative hein, de la Direction Générale de la Santé hein, qui existe maintenant depuis 4 ans. Donc voilà.
Vous coordonnez aussi le centre de prévention du suicide. Alors, quelles sont les missions de ce centre ?
Alors, j'en ai énoncé une. Hein, il y a le développement du 3114 sur le territoire dont on a la responsabilité, le Poitou-Charentes-Limousin, 7 départements. Et il y en a partout dans toute la France et dans les DOM-TOM. Il y a également une autre unité qui s'appelle Vigilance, hein, qui est le suivi des patients suicidants, c'est-à-dire qui ont fait un passage à l'acte suicidaire pendant 6 mois au téléphone et par carte postale. Voilà, c'est ouvert là aussi pour tout le monde. Et là, l'originalité pour le centre de Poitiers, c'est que Vigilance commençait à se développer dans les lieux de détention pour les personnes qui sont sous main de justice. Et le 3114 va être aussi ouvert pour eux dans les semaines qui viennent. Nous sommes un centre expérimental, donc voilà, et c'est aussi une possibilité. Il n'y a pas de raison que les détenus soient plus maltraités que les autres. L'enfermement, c'est une chose, mais l'idée, c'est quand même de les conserver vivants. Voilà, quand on sait qu'il y a 7 fois plus de suicides dans le centre pénitentiaire qu'ailleurs. Hein. Voilà, quel que soit l'âge, voilà, des plus jeunes ou des plus vieux.
Si on revient à cette journée donc des endeuillés par suicide, est-ce que les personnes endeuillées par suicide ont des défis particuliers, des réalités particulières par rapport aux autres types de deuil dans notre société ?
Absolument. Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que ça existe et que nos confrères canadiens ont mis ça en place il y a 3 ans à peu près. C'est que le deuil après suicide est un deuil particulier, souvent traumatique. Alors soit les personnes ont assisté au suicide, c'est plus rare mais ça peut arriver, soit ils ont pu découvrir la personne décédée, soit ils imaginent comment elle a pu éventuellement passer à l'acte. Donc tout ça est fort perturbant et va impacter toute leur vie. Donc le deuil est bien sûr un état et va durer toute la vie, mais le chemin de deuil pour les endeuillés par suicide sera beaucoup plus chaotique que pour les autres.
Il y a une forme de culpabilité aussi,
alors,
peut-être ?
Des sentiments de culpabilité, voire des sentiments de honte, hein, une incompréhension, la recherche du pourquoi. Pourquoi nous a-t-il fait ça ou nous a-t-elle fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Et cette réflexion torturante est quelque chose de différent par rapport à un deuil, entre guillemets, normal.
Alors, vous proposez aussi, vous le disiez, des rencontres par rapport pour ces personnes endeuillées. Comment ça se passe concrètement ?
Alors, soit ça se passe en individuel, par exemple, à ma consultation spécialisée, mais d'autres collègues peuvent bien évidemment accompagner ces personnes. On a remis en place un groupe d'une dizaine de personnes endeuillées par suicide qui sont reçues une fois par mois, le soir, après le travail, et animées par une psychologue et une infirmière, et que moi je rencontre ensuite ces deux animatrices plus exactement, en général tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour leur permettre, je dirais, d'évacuer un peu les difficultés et puis de réfléchir en commun à certaines problématiques. Mais on peut faire aussi de l'individuel et du collectif en même temps, où l'un après l'autre, tout se voit. Alors, c'est bien sûr une petite population, hein, puisque on va pas toucher tous les endeuillés par suicide. Imaginez qu'il y a à peu près 9000 morts par suicide en France. Si on multiplie par 5, ça fait quand même 45 000 personnes, voilà, qui est au bas mot, hein, pour pas dire plus, bien évidemment, qui sont endeuillés par suicide tous les ans. Donc ça fait une population importante et il est évident que chacun n'est pas prêt à se faire accompagner ou pas. Avoir une journée comme ça un petit peu phare, ouverte, peut-être permettre à certains d'oser venir. Ne rien dire, mais peut-être écouter les autres ou voir que ça peut être possible. Là aussi, c'est un peu la même idée de lien et d'ouverture à tous ceux qui souffrent, hein, sur le plan psychologique.
Donc rendez-vous ce samedi, c'est toute la journée, hein, à 9h, donc il y a la diffusion de ce film, La vie après le suicide d'un proche, avec une discussion, et puis l'après-midi, des témoignages et des échanges que vous animerez.
Absolument.
C'est gratuit, c'est ouvert
à tous. C'est ouvert à tous.
Et le rendez-vous est
à la salle de conférence du centre hospitalier Henri Laborie.
Merci beaucoup, docteur Jean-Jacques Chavagna, d'être venu nous parler de cette journée mondiale et donc à laquelle, pour la première fois, le centre hospitalier Laborie participe ce samedi. Merci beaucoup.
Merci pour votre invitation.
Demain, dans Séquence Midi, on parlera des résidences médicalisées du CHU de Poitiers et de leur évolution. Et puis, on accueillera aussi Audevienne par rapport à la qualité de l'eau. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Le site Picto-Charentais de l'ERENA vous invite à participer ce mardi de 13h à 14h à leur web éthique « Comment les personnes handicapées vieillissantes questionnent les institutions et la société ». Vous pourrez échanger avec divers spécialistes et toutes les infos sont sur le site de l'ERENA et donc c'est gratuit, il suffit donc de se connecter à 13h. Au programme du mois de Poitiers se mobilise aujourd'hui, de la correction maritale à la violence conjugale au Moyen-Âge, une histoire de seuil, c'est à 18h30, une conférence de Martine Charaja, de conférences en histoire médiévale à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et la conférence sera suivie de la diffusion du documentaire Avec les vivantes, en finir avec les violences faites aux femmes de Mélina Huet et d'un échange avec Mélanie Boyer, psychiatre et médecin légiste, responsable du centre de psychotraumatologie du centre hospitalier Laborie et du centre régional psychotraumatisme Nord-Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin, une réunion publique avec Philippe Poutou, NPL anticapitaliste, c'est à 20h30 avec les jeunesses anticapitalistes qui invitent donc Philippe Poutou à la Maison de la Gibauderie. Et la soirée peut se terminer à Châtellerault, Nouveau Théâtre, avec le Phare. Rend hommage à Kalthoum, diva égyptienne de la chanson arabe, et à Omar Khayyam, poète persan du XIe siècle qui célébrait l'ivresse, la transe et l'amour. Sur Pulsar à 18h, c'est Alassou, à 19h, Slamatouva, 20h, Pétale de Sakura, 21h, je le disais, c'est Culture Dub, et 23h, Novorama. Merci Yann pour la réalisation technique. On se quitte avec un extrait de Enta Omri, un titre de 1946 de l'égyptienne Kalthoum.
Les étoiles en plus.
Les étoiles en plus.